Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Cette année comme les autres, le 14 février, il y aura eu des bouquets rouges un peu séchés, des chandelles revisitées et des mots d'amour sonnants et trébuchants et surtout beaucoup de pubs. Tout cet attirail sentimentalo-romantique figé dans une idée de l'amour et du couple hétéro-normé qui n'a pas bougé d'un cara depuis des décennies et dont on semble peiner à se débarrasser. La clinique de l'amour, notre nouvelle série, c'est tout ce qui est planqué sous les petits cœurs, remisé au fond de la vie quotidienne, les larmes ravalées, les espoirs caressés, les concessions et les aménagements, les souvenirs fondateurs, les mots d'amour hésitants et les enfants. C'est ce qu'on ne voit jamais dans les films, la vraie vie des couples, dans le temps étiré des jours qui se succèdent, s'aimer longtemps ou se quitter pour vivre mieux. C'est la charge mentale, les devoirs des enfants, le sexe après les 3 années de grâce, et ce pourquoi, malgré tout, on vit ensemble et on arrive parfois à être heureux. Il y a 5 épisodes, 3 couples en thérapie avec 2 psys. À la fin, ils se retrouvent ou se quittent, mais ils ont compris ce qui s'est joué ou rejoué dans leur histoire à deux. Ils viennent d'horizons très différents, travaillent ou pas, sont riches ou pauvres, mais tous se retrouvent nus à regarder leur vie passer dans un hôpital à côté de Montpellier. La clinique de l'amour, c'est une série triste et gaie de Delphine Saltel qui y met de sa personne. Le premier épisode s'appelle « Partir ou rester ». La réalisation est signée Cécile Lafont.
Bien, alors nous écoutons. Comment est venue l'idée de cette consultation et quelle peut être votre attente à chacun de cette séance?
Je commence.
Eh oui, ça vient de toi surtout.
Donc, ça fait... En fait, on se dispute beaucoup et le temps monte et il y a des tons qui me sont insupportables et je pense que... Enfin, on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Mais on a du mal à communiquer calmement. Que ce soit pour les enfants ou pour nous, c'est très fatigant, on va dire. Donc voilà, l'idée est venue en effet de moi, en me disant que peut-être on pourrait pêcher des outils auprès de vous pour nous aider à se comprendre.
Ouais. Et vous, comment vous avez reçu la proposition de...
Vous en avez marre de ces conflits là? Alors après, moi, c'est vrai que des fois, je pète un câble, je me dis, mais c'est pas possible de pas se comprendre, et puis bon, mais voilà, quoi. Alors c'est vrai que c'est un côté assez impressionnant.
Qu'est-ce qui peut être impressionnant?
Ben, quand on crie, quand on gueule, quoi. Enfin, c'est surtout, c'est vraiment éviter, c'est d'éviter ça devant les enfants, parce que c'était pas l'idée de départ. Hein.
Je me souviens du jour où, avec mon conjoint, on a entrepris de monter ensemble un meuble en kit. C'était un lit à barreaux pour notre premier enfant qui venait de naître. À l'époque, c'était déjà clair qu'on n'était ni l'un ni l'autre des as du bricolage, mais on pensait quand même être suffisamment intelligent pour déchiffrer un mode d'emploi IKEA. On a monté le sommier complètement à l'envers. Et quand on s'est aperçu qu'on ne pourrait pas le dévisser sans tout casser, là, ça a explosé. On s'est hurlé dessus avec une violence inouïe. Sur le coup, ça ne nous a pas semblé très grave, on en a même rigolé. Mais parfois, je me demande si ce n'était pas la première goutte qui est venue modifier l'alchimie de notre amour. Si ça n'a pas commencé ce jour-là pour nous, le lent processus qui transforme inéluctablement la passion des débuts en petite guerre conjugale. Pendant plusieurs mois, tous les mardis matins, je suis allée assister à des séances de thérapie de couple dans un hôpital du sud de la France.
Aujourd'hui, vous aimeriez qu'on parle de quoi?
Quand je suis à bout, en effet, je peux lui sortir des choses méchantes.
Un hôpital psychiatrique avec des allées bordées de platanes et de lauriers roses. Je voulais savoir si l'amour peut survivre à la vie en couple.
Ça prend pas 2 jours pour que ça change, ça met du temps.
Je suis avec le père de mes 2 enfants depuis plus de 10 ans. et j'aimerais que notre histoire dure toute la vie.
J'ai l'espoir de t'entendre, je sais que je ne t'écoute pas.
Mais autour de moi, c'est un peu l'hécatombe.
Je sais que je t'entends pas.
Les uns après les autres, les couples jettent l'éponge, finissent par s'écharper pour la revente de l'appartement ou la garde alternée des enfants.
Il y a du boulot.
Je me demande d'où vient cette malédiction. Comment elle se déclenche.
Tu as des arguments et tu penses que ce que je te dis, c'est...
Et surtout si on peut la déjouer. Quels professionnels peuvent nous y aider ? Y a-t-il des techniques, des méthodes pour éviter que la vie à deux ne devienne fatalement un sport de combat ?
Le centre de thérapie familiale, c'est, on m'a dit que c'était par là ?
Oui, c'est près de l'église. Donc vous allez, vous voyez le poteau blanc, le dernier ? Vous partez sur votre droite et vous avez deux bâtiments et là c'est indiqué.
La première fois que je suis allée dans cet hôpital, en croisant les infirmières ou les patients en pyjama, cartonnés aux neuroleptiques, j'ai pensé aux couples qui viennent là pour relancer leur relation à bout de souffle. Il y a quand même plus romantique qu'un hôpital psychiatrique. Quel niveau d'incompréhension mutuelle faut-il avoir atteint pour franchir le seuil de cette consultation ?
Vous êtes trouvé facilement ?
Oui, ça va. En demandant à l'accueil, après...
Ils ont bien indiqué.
Voilà, après, il suffisait de trouver l'intérieur.
Bien, alors, je propose qu'on se présente. Moi, je suis Jean-François Ampella, je suis psychiatre et thérapeute de couple et de famille.
Et Ludmila Chostakov, psychologue clinicienne et thérapeute familiale.
Dans ce service, les couples sont reçus par un duo de praticiens, un homme et une femme. Ça permet de communiquer en miroir, de ne pas être face à un tiers unique qui pourrait faire alliance avec l'un des deux patients.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment est venue l'idée de cette consultation et puis nous dire quelle est votre attente à chacun ?
Alors, moi personnellement, après je laisserai parler ma compagne, je dirais trouver un terrain d'entente qui puisse faire que la vie recommence comme avant. Faire le point et peut-être sauver notre couple.
Ce jour-là, c'est le premier rendez-vous du couple Martin. Ils ont bientôt la soixantaine, sont mariés depuis 17 ans. Ils ont un garçon et une fille de 12 et 14 ans. Le monsieur a déjà deux enfants d'une première union, qui sont adultes maintenant et qui ne vivent plus avec eux. Ils ont pris rendez-vous parce que le mari a quitté le domicile conjugal il y a deux mois, à la suite d'une énième scène de ménage.
En fait, il y a deux options qui se décident. L'option départ de la maison et l'option rester à la maison. C'est les deux options qui sont dans ma tête. Voilà.
Et vous, madame, vous avez réagi comment à la proposition de consultation de couple ?
J'ai été d'accord, parce que si ça peut nous aider, voilà, donc bon, je me dis, moi aussi, je vais sauver mon couple et ma famille, surtout.
Comment vous pourriez définir votre attente principale, madame, en venant nous voir ?
Attente principale ?
Sur quoi vous souhaiteriez être aidée ?
Je souhaiterais que Philippe... arrive à m'accepter comme je suis, parce que le gros problème, c'est ça.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Ben, il me le dit souvent. Il veut toujours que je change quelque chose. Je pense pas qu'à 60 ans, ma personnalité va changer. Donc, lui faire comprendre. Et peut-être moi aussi, accepter ses défauts aussi, hein, mais déjà qu'il m'accepte comme je suis.
Vous pensez à quoi en particulier ?
Il a tendance toujours à dire que je dirige tout, que je commande tout, que je veux tout faire moi, que c'est ça, en gros. J'ai toujours tout pris en charge, que je m'occupe trop des enfants, que je m'occupe pas assez de lui, que voilà, en gros, pour lui, je suis quelqu'un d'autoritaire, de dirigiste.
J'observe cette femme dévoiler courageusement à deux inconnus les reproches entendus mille fois dans la bouche de son mari.
Alors, j'essaye de faire des efforts, certainement pas assez pour lui.
Et je ne peux pas m'empêcher de ressentir un élan de solidarité féminine.
Par exemple, qu'est-ce que vous appelez faire des efforts ?
Même si je ne suis pas dans la pièce avec elle.
Bah, des fois, j'essaye d'être un peu plus présente, mais au début, bah, je suis présente, et puis après, pof, je retombe dans le quotidien, des devoirs des petites, des années passées par là.
Ici, c'est comme une salle d'interrogatoire dans les films policiers. Il y a un petit local avec des haut-parleurs et une vitre sans teint à travers laquelle on peut assister à la séance. C'est là que je suis installée, à côté de deux étudiants en formation qui prennent des notes sur le déroulement de la thérapie. C'est bizarre. J'ai l'impression de participer à une expérience scientifique en laboratoire.
Ce que je lui ai reproché surtout, c'est qu'elle est là à regarder ce que je fais constamment derrière tout ce que je fais. Un exemple concret, je lui ai d'ailleurs reproché, je vais jeter quelque chose à la poubelle, je vais voir de suite ce que j'ai jeté à la poubelle.
Elle a une manie, elle conserve tout.
Elle
conserve tout. Je dis, bon, ben, il faut renouveler la table robe, par exemple. Il faut jeter les trucs qui ne te vont plus, ça ne sert à rien de les garder dans le placard. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? À part, donne-les aux œuvres. Alors, elle les conservait. Ça lui faisait plaisir dans des sacs. Dans des sacs.
Non. Après, je ne les conservais pas dans des sacs. Je les conservais parce que je les donnais à d'autres personnes. Seulement, avant de les donner, ben, je stockais. Donc, maintenant, j'ai tout débarrassé, j'ai donné.
Mais depuis que vous l'avez exprimé à votre épouse, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle en a tenu compte?
Alors, effectivement, elle en a tenu compte en partie. Mais bon, c'était un détail parmi tant d'autres, les vêtements. Alors, ces détails mineurs tous les jours provoquent des agacements depuis des années de ma part. Des agacements qui font jusqu'à une exaspération qui est crispante et qui me pèse.
Ça fait à peine 5 minutes que l'entretien a commencé et le couple est en train de se focaliser sur la manière de gérer les poubelles. Je me demande s'ils ne font pas fausse route. Mais d'après la psychologue, il faut en passer par ce genre de détails techniques.
Moi, l'hypothèse que je fais à ce moment-là, c'est que derrière ça, derrière ces reproches, des reproches sur des choses effectivement très concrètes de la vie quotidienne, il n'est pas question de ça, il est question de quelque chose de plus profond. J'en peux plus que tu stockes les vêtements, que tu... En gros, derrière ça, c'est j'en peux plus, peut-être que tu gères tout. J'ai une autre demande, et cette demande, elle est plutôt une demande d'exister, en fait, d'exister auprès de toi.
J'ai craqué une première fois il y a quelques années. Après, on s'est séparés, enfin, je me suis séparé d'Henriette, j'ai trouvé... une autre conquête de femme, voilà.
On ne s'est pas séparé.
Tu avais
une conquête, mais tu rentrais tous les soirs à la maison.
Voilà, j'envisageais de me séparer.
À point d'heure, oui, mais il n'est pas parti.
J'envisageais de me séparer, voilà. Ouais. Parce qu'il y avait un gros problème entre nous, qui était un autre problème, quoi. En fait, ce que je reproche à ma compagne, c'est d'être plus mère que femme. Voilà. Elle est... le temps passé avec les enfants, je ne lui reproche pas. C'est son aspect, après, d'être moins présente, je dirais, pour des côtés qui sont affectifs. Alors, quand je me montre présent auprès d'elle, moi, j'ai besoin d'être tactile, qu'on me vienne vers moi, qu'on me prenne la main, qu'on me fasse un bisou, qu'on me touche, qu'on me câline. Moi, j'ai tendance à vouloir des câlins. Et me rapprocher de ma compagne, des fois, c'est... Eh bien, quand je m'approche d'elle, j'ai pas le temps. C'est pas le moment. Vous voyez ? Donc, c'est des réflexions qu'elle me faisait régulièrement. Alors, ce quotidien-là, quand vous avez une personne ou une compagne qui vous refuse, provoque une frustration. Donc je suis arrivé à cette frustration qui m'a poussé aussi, dans les cas désespérés, dans une première tentative de suicide, dans le deuxième cas, dans un départ vers une autre conquête. Effectivement, j'ai rencontré une autre femme. Quand je suis revenu, effectivement, que je me suis séparé de cette femme, ça a duré peut-être deux mois, les améliorations. Effectivement, elle avait changé physiquement. Elle avait énormément maigri parce qu'elle avait pris du poids depuis des années, c'est pas sa faute, je lui en veux pas. Elle a pris du poids après les deux grossesses, elle ne les a pas perdues. Mais ce que j'entends d'elle, c'est des améliorations dans le quotidien sur ce côté affectif. D'accord.
Derrière ma vitre sans teint, je n'en reviens pas. Cette dame se retrouve visiblement à gérer les enfants et plus ou moins toutes les tâches domestiques, et son mari voudrait qu'en plus ce soit la fête du sexe tous les soirs à la maison. Pour moi, l'injustice crève les yeux. Mais je dois avoir trop tendance à m'identifier parce que les deux thérapeutes, eux, n'ont pas du tout la même grille de lecture.
On peut supposer, dans ce cas particulier, que cet homme exprime à travers ses demandes sexuelles une demande de reconnaissance, d'écoute, et on peut faire l'hypothèse que c'est quelque chose qui lui a manqué, peut-être dans son histoire, et qu'il vient rejouer le scénario qui serait consciemment, je veux être aimé, désiré, et inconsciemment, j'ai du mal à y croire, ou ce n'est pas vraiment ce que j'ai connu dans mon histoire. Et donc, à mon insu, involontairement, je rejoue le scénario où je demande à être aimé et désiré, mais au fond, je crée un contexte relationnel où je suis rejeté. Alors évidemment, tout ça est à contextualiser dans l'histoire de madame. Elle y participe également à ce scénario. Et c'est tout le boulot de la thérapie, c'est de faire apparaître les scénarios infantiles de chacun et comment ils rentrent en résonance ou comment ils finissent par bloquer quelquefois.
Je n'ai pas fait de psychanalyse. Ça doit être pour ça que je n'avais encore jamais vraiment réfléchi en termes de scénario infantile. Au fait que dans un couple, quand on s'aime, qu'on se dispute, dans la pièce, on n'est pas seulement deux adultes. Il y a aussi les enfants qu'on a été, nos parents, nos fratries, tous les fantômes hérités de nos sagas familiales respectives. Ça me semble évident tout à coup, et un peu vertigineux aussi, tout ce monde avec lequel on serait censé composer. Mais je note dans un coin de ma tête, à la prochaine grosse engueulade avec mon conjoint, essayer de penser au petit garçon qu'il était. Je ne sais pas pourquoi, je suis sûre que ça m'aidera.
Et vous, madame, comment vous, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous vivez quand votre mari demande de l'affection, des câlins?
Chaque fois qu'il y a eu, parce que c'est cyclique, hein, mmh. Il y a des crises à chaque fois. Chaque fois qu'il me l'exprime, je lui dis, c'est vrai que je suis en train de laver la vaisselle, il vient, il me fait un bisou. Mais je sais très bien qu'il n'attend pas que ça. Moi, c'est vrai qu'un bisou, se tenir la main, il n'y a pas de souci. Ça ne lui suffit pas, ça. En général, il faut que ça finisse sexuellement. Donc, du coup, je dis non à un truc. Si je suis en train de faire quelque chose, je n'ai pas envie de finir. Après, ça nous est arrivé quand même de le faire quand même. Mais c'est vrai que j'ai tendance à penser qu'il ne pense qu'à ça, au sexe. Mmh. Donc, des fois, après, je dis quand tu me cries tout le temps, mais moi, je n'ai plus envie.
Mais est-ce que...
Si tu cries, tu me fais la tête, si tu... comme je dis souvent, il a ses gros yeux méchants, là. Et tais-toi, j'ai pas envie de coucher avec lui. Voilà.
Mais quand il...
Par contre, s'il est gentil, ben, automatiquement, là, la preuve, c'est que ça fait 2 mois qu'on est séparés et on a quand même recouché ensemble. Mmh. Parce que là, quand on se voit, tout est parfait. Mmh. Donc, ça dépend comment on s'est présenté.
Et si vous l'exprimez, mon chéri, j'aimerais... De temps en temps, j'aime juste des câlins, des
caresses,
c'est le sentiment qu'il l'entend.
Non, oui, il l'entend, mais après...
Non, je ne la bouscule pas,
contrairement à... Non, il ne m'a jamais forcé de faire quelque chose que je ne
peux pas faire. Je ne l'ai jamais forcé à faire quoi que ce soit.
Si je dis non...
Le problème, c'est que le problème chez ma compagne... alors, je vais jouer les cartes sur table. Je suis un homme, et tous les hommes ont des besoins de sexe. J'ai dit, je suis tactile et érectile. Érectile, chaque fois que je touche, effectivement, j'ai des envies. Bon, et pour moi, faire l'amour, c'est quand on en a envie. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de matin. Parce qu'elle me dit, je suis du matin. Moi, j'ai dit, ben, le soir, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas de problème. Le soir, les enfants, ils dorment, on fait l'amour, c'est pas de souci. Me prendre pour un obsédé sexuel.
Je n'ai jamais dit sur obsédé sexuel. J'ai simplement dit que. Des fois, je voudrais que ça s'arrête à dégâter des câlins, que en général, toi, tu faut que tu ailles plus loin. C'est tout. Ça ne veut pas dire obsédé sexuel.
Quand elle dit faire dégâter des câlins, je n'arrive pas à savoir si c'est juste un nom de code que le couple utilise par pudeur, ou si ce vocabulaire intime révèle vraiment quelque chose de leur sexualité.
En tant que thérapeute, ce qu'on va entendre, c'est bien sûr les termes employés pour venir dire les choses. Effectivement, ce mot gâté, qu'est-ce que ça vient dire? Comme si madame se positionne un petit peu en tant que mère, et lui, du coup, en tant qu'enfant, petit garçon, d'où une rivalité qu'il ressentirait vis-à-vis de ses propres enfants.
Alors, je vais venir sur le troisième point qui est le plus important, c'est les devoirs. Les devoirs. Elle est obsédée, ma compagne, par les devoirs auprès des enfants. Elle ne les lâche pas. C'est-à-dire que les week-ends sont consacrés aux devoirs. Donc pas de vie de couple. Mmh.
Et vous, madame, quand votre mari exprime son besoin de trouver des moments à deux dans le week-end, comment vous recevez
ça? Je pense qu'il a raison. Mais après, c'est vrai que moi, s'il y a des devoirs à faire, c'est vrai que je vais faire passer les devoirs avant.
Bien, alors, on va faire notre interruption de séance pour réfléchir avec nos collègues à votre demande et revenir pour faire part de nos échanges.
Au bout de 45 minutes de séance, les deux thérapeutes passent de l'autre côté du miroir Santin pour une concertation en équipe.
Ce qui m'a frappé, c'est le côté... le décalage. J'ai ressenti un décalage entre le discours qui a émergé juste après que monsieur dise qu'il y avait une tentative de suicide. J'ai trouvé ça... En fait, je sais pas, ça m'a semblé décalé qu'un mois après, le discours, il se ressente sur la sexualité, alors qu'il y a eu quelque chose de très grave un mois avant.
C'est vrai que c'est devenu un enjeu relationnel, justement, la sexualité, et certainement ça doit parler d'autres choses.
Moi, je les sens assez proches, toute leur manière de se parler, ils s'écoutent, je trouve qu'ils s'écoutent d'une manière attentive. J'ai pas senti trop de tension dans l'entretien, je trouvais qu'ils peuvent exprimer assez clairement leurs attentes, leurs besoins, leurs limites. Donc j'ai le sentiment qu'ils veulent vraiment faire quelque chose de leur couple. Je sens qu'ils sont en chemin de trouver un aménagement. Alors peut-être ça passe par une séparation de corps. Mais ils disent bien que là, ils se retrouvent mieux, finalement, en étant séparés. Voilà.
Après, évidemment, il y a aussi la fonction des enfants là-dedans. Hein, donc, effectivement, ça paraît central, en fait. Hein. Voilà.
Oui, tu dis que tu penses que le fait de s'occuper des enfants, de manière très, très... précautionneuse, c'est peut-être une manière de mettre un peu à distance le couple. Ouais. Bon, et ben on y retourne. Ça va, il y avait autre chose. Alors, qu'est-ce qui vous ferait dire, si on réfléchit à une petite étape, on va se projeter dans les prochains jours, les prochaines semaines. Est-ce que vous avez une idée, l'un et l'autre, d'une petite chose très très concrète, très mesurable, qui vous ferait dire à l'un et à l'autre que vous avez avancé d'un pas, en se disant qu'on ne peut pas changer l'autre, on ne peut changer que soi. Parce que souvent, les frustrations, pour reprendre votre terme, monsieur, c'est qu'on met la barre là, on se dit, bon, voilà, moi j'aimerais arriver là, j'aimerais qu'il n'y ait plus de tension, j'aimerais qu'on passe des week-ends tous les deux, un amoureux, et si ça n'arrive pas, ça voudrait dire vraiment qu'on n'est pas un bon couple, que je n'ai pas su être convaincant, que ma femme n'écoute pas. Mais le problème, c'est pas que vous n'en êtes pas capable, c'est que vous avez la barre trop.
Bah, petite étape, c'est déjà que, qu'elle comprenne qu'effectivement, il faut qu'elle lâche un peu ses enfants. Et qu'il y ait une compréhension de la part de ma compagne différente dans l'approche sexuelle, l'approche de mes besoins. Voilà. Là, on est amant maîtresse. Actuellement, c'est un peu le, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en temps séparé.
Mais pardon, je vais aller jusqu'au bout. Si vous dites, je comprends, mais que ça ne change pas.
Ça ne changera rien, parce que moi, j'ai peur du retour au quotidien.
Donc, même question, à quoi vous pourriez mesurer dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, que de votre point de vue, vous avez avancé d'un pas dans votre relation?
Qu'il dit ça, qu'il ne crie pas, qu'il fasse passer gros yeux.
Qu'il ne crie pas, par exemple, quand vous dites quoi?
Peut-être... On est en train de se faire des gâtés, mais simplement gâter qu'à l'air, voir s'il est capable de ne pas aller plus loin. Montrer qu'on s'aime et qu'on se tient à la haute sans aller sur du sexuel.
Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'en termes d'objectifs concrets à atteindre ensemble dans les semaines à venir, les Martins viennent de se fixer des visées diamétralement opposées. Elle dit... Je veux voir s'il est capable de ne pas aller sur du sexuel, mais lui, c'est justement ce qu'il demande, du sexuel. Franchement, je me demande ce que va donner leur premier exercice pratique et comment le couple va s'en sortir.
Là, on pourrait vous revoir le 3 juillet, ça fait dans 2 semaines. Dans 3 semaines, nous avons pour habitude de proposer 2 rendez-vous d'avance.
Dans le train, en rentrant, je me sens un peu bizarre d'avoir plongé comme ça dans l'intimité d'un autre couple. Mais j'ai l'impression que ça peut faire du bien d'assister à ces thérapies. Que je vais peut-être en retirer des techniques à mettre en place aussi chez moi.
Et surtout, on s'habille, Gloria, là.
Allez, c'est
là.
Par exemple, j'ai envie d'essayer tout de suite ce truc du petit objectif concret et mesurable à court terme. Je réfléchis, évidemment, il y en aurait des centaines, des gestes, des choses à dire ou à faire pour déminer le quotidien. Par quoi commencer ?
Mais autrement, qu'est-ce que tu veux que je dise? À ce moment-là, j'ai quoi? J'ai tout le monde et comme ça, voilà. Après, tu me fais confiance, je suis pas folle.
Peut-être que je pourrais essayer d'arrêter mes commentaires sur la manière de s'habiller ou de se coiffer de mon conjoint. Je le sais que c'est nul et qu'il déteste ça. Je suis sûre que certains matins, ça changerait complètement l'ambiance à la maison. Alors pourquoi j'arrête pas?
Avant, ma mère, elle m'a appris très très tôt à repasser.
Il y a 10 euros dans les placards.
Ça va être une fois repasser disponible. Qu'est-ce qu'ils font les euros?
To read me like a fool, to read me mean and cruel, but love. Faithful heart, tear it all apart, but love me.
Won't you love me?
Will I ever, you ever go? Darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and
c'était le premier épisode d'une série entièrement disponible en podcast qui s'appelle La Clinique de l'amour sur toutes les applis, surtout sur l'appli de Radio France et sur franceculture.fr, signée Delphine Saltel, réalisée par Cécile Lafont. Merci à Jean-François Ampelas, à Ludmila Shostakov, aux patients dont les noms ont été modifiés, je le précise, à Céline Autin, Adila Benedjaizou, Nicolas Champeau, Sophie Guignard, Florent Latrive, Aurélie Marseille et Sarah Jiriwi s'occupe de la production des Pieds sur Terre. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez continuer, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur les applis, à nous envoyer des commentaires et à partager tout ça sur les réseaux sociaux.